on peut en parler. Moi, je suis persuadé qu'il y a une opportunité énorme pour les RH. Et typiquement, la restauration, ça doit être le cœur des essais sur la gestion des ressources humaines. La restauration, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, je vais généraliser, ça va pas être sympa pour certains. Il y en a pour qui c'est pas vrai, mais c'est un métier quand même qui avait des pratiques managériales inadmissibles, souvent. C'est un métier qui n'a pas attendu le Covid pour être pénurique, ça a accentué le truc, mais qui ne l'a pas attendu. Et pour moi, les RH ont un vrai enjeu d'organisation. Cette pénurie de talent, tu peux largement en faire un avantage concurrentiel. On a des clients, par exemple, qui, pour tacler cette pénurie de job, ont créé un poste de staffing manager. C'est-à-dire, par exemple, que leur objectif, comme ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir recruter autant de personnes que d'habitude, ils vont maximiser le peu de personnes qu'ils ont, pour un truc très bête. Il vaut mieux maximiser le temps, faire bosser 2 personnes 50% de leur temps, que de trouver 10 personnes que tu vas faire bosser 10% de leur temps. Bah, ils ont créé un poste qui sert à ça, justement, qui sert à maximiser les gens qui sont là.
Travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau général.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job ?
Patati et patata.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et patata, l'émission RH qui va chercher l'information là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien, parce qu'on entend et on lit plein de choses, donc des conseils, des best practices, un peu partout sur les réseaux sociaux et même on en entend un peu partout, et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ça, Jérémy, on a un nouvel invité aujourd'hui.
Oui, un invité de taille.
Un invité de taille.
Bonjour Quentin. Quentin, en fait, vous êtes cofondateur et CEO de Anjaro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Anjaro en quelques mots ?
Ouais, bonjour à tous les deux. Anjaro, en fait, on est une plateforme de staffing. En fait, on est une place de marché en circuit fermé qui va permettre à des entreprises d'avoir une vision exhaustive et instantanée de tout le personnel disponible en interne et en externe si nécessaire pour pallier à des absences de courte durée.
Donc c'est C'est de l'intérim en fait ?
Justement, non, mais on va aller vraiment se positionner sur le même créneau. C'est-à-dire qu'en fait, on va permettre à des managers qui d'habitude, pour trouver un remplaçant, vont passer des coups de fil à droite à gauche, vont appeler les temps partiels qui veulent faire des heures complémentaires, les CDD qui ont l'habitude de venir, et potentiellement d'ailleurs l'agence d'intérim, nous en fait, on va leur donner une vision exhaustive, instantanée, de tout ce personnel volontaire pour pouvoir les solliciter en un claquement de doigts. Et donc là où il passait une heure, j'avais hier un client qui me disait même 2 heures pour trouver du personnel le matin, et bien en fait ils vont le faire littéralement, c'est notre plateforme qui le dit, en 25 secondes.
C'est quoi ? C'est comme en fait, comme on pourrait dire, évidemment on ne compare pas des produits, les humains aux produits, mais c'est comme une gestion de stock, entre guillemets, où on donne accès à l'entreprise. Quel collaborateur pourrait se rendre disponible en remplacement ou est-ce que c'est comme ça ?
J'ai toujours du mal avec ce qui touche pas à l'humain parce que ce qui fait la beauté de notre métier, c'est justement que notre logiciel, il est obligé finalement d'avoir une dimension qui touche à l'humain, avec d'ailleurs tout ce qu'on peut pas forcément anticiper. Mais on peut quasiment penser à une agence d'intérim interne, d'une certaine manière. C'est-à-dire donne la possibilité, via un logiciel, de créer en quelque sorte...
Concrètement, tu nous dis, on peut se tutoyer, tu nous dis, en circuit fermé. En circuit fermé, ça veut dire que chaque entreprise va pouvoir créer son écosystème d'intérimaire ou alors de contrat court CDD, ouais. etc. etc. Ouais. Un peu comme Kappa, finalement.
C'est d'une certaine manière là où Kappa, eux, ont la capacité justement de proposer une ressource externe, donc que tu ne connais pas. Nous, en fait, on va aller chercher justement dans ce que
l'entreprise différence.
Connaît. Donc la différence finalement,
uniquement,
facialement,
uniquement.
On va pouvoir brancher par exemple des Kappa ou des Adeco ou des Manpower, hein, si jamais on trouve personne en interne, ce qui est honnêtement le
cas. Tu deviens un outil d'intérim interne.
En quelque sorte, c'est vraiment la capacité, exactement comme tu irais sur un outil digital d'intérim, de faire la même chose mais avec tes ressources internes. Parce qu'en fait, quand tu es une grande organisation, nous en Jaron, on travaille avec des organisations de plus de 500 personnes, grosso modo. On a des clients un petit peu plus petits, mais la majorité...
Il y a des secteurs privilégiés, j'imagine.
Retail, restauration, construction,
énergie. En tout cas, plus
énergie.
De 500, quoi.
Voilà, exactement. C'est vraiment des gens qui vont avoir un certain volume, plutôt col bleu, comme disent les anglo-saxons. Donc, avec, finalement, une vraie... dépendance à la présence de la personne pour transmettre, pour délivrer la prestation.
Oui, bien sûr.
Et donc, en fait, on va leur permettre de maximiser leur écosystème parce qu'en fait, ils l'ont. Je veux dire, quand on prend par exemple un Sodexo, où là, on va lancer Castorama, je veux dire, c'est
Sodexo,
des gens...
un de vos clients.
Sodexo, un de nos clients. Castorama, on les lance là le mois prochain. Typiquement, c'est des gens, ils ont un écosystème. Le problème, c'est que chaque magasin a son petit réseau.
Ouais.
Ce qui fait que chaque magasin, dans son coin, passe des coups de fil à droite à gauche à chaque fois qu'il a besoin d'un remplacement, alors qu'en fait, il suffirait de mutualiser un petit peu tout ça pour rendre le tout beaucoup plus
donc,
efficace.
Donc, je récapitule. Tu as déjà travaillé pour Castorama, tu es dans la plateforme,
ouais.
Et donc Castorama, ou un de ses magasins du moins, peut faire appel à toi,
voilà.
Selon ta disponibilité.
Exactement. Moi, je suis, je suis spécialiste rayon jardinage. C'est un gros truc chez eux parce qu'ils ont une saison jardinage. Ouais. Samedi matin, j'ai quelqu'un qui me dit désolé, je suis malade. Moi, je vais le faire très simple. Je suis Castorama. Mon rayon jardinage n'a pas de vendeur. Je me transforme en showroom pour Mano Mano. Les gens viennent regarder et viennent commander sur Internet parce qu'il n'y a pas la force du conseil client.
D'accord.
Donc, je vais chercher autour de moi dans ma région les personnes que j'ai mis sur ma plateforme, donc en qui j'ai confiance, et qui ont levé la main en disant « Moi, samedi, si vous avez besoin de moi, je suis volontaire, je veux bien bosser pour Casto. »
Alors justement,
ça aide beaucoup.
Ok,
super.
Là, on est sur un logiciel, donc un logiciel interne qui doit être en développement constant, donc bien avec des retours en plus qui doivent être différents en fait par client, donc des développements différents. Vous prenez en compte chaque demande, peut-être ?
On travaille plus à l'objectif. On a arrêté, je pense que ça, c'est peut-être quasiment une erreur de débutant, d'ailleurs, quand on débute dans l'univers du digital, qui est d'avoir des conversations qui sont très liées à la fonctionnalité avec ses clients. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer vraiment la vie de nos clients. Nous, notre boulot, c'est de réduire le temps entre la déclaration de l'absence et le moment où un remplaçant arrive sur site. C'est notre cœur de métier. On est devenu très, très bon là-dedans.
Mais un logiciel intégré donc, chez chacun des clients, ça veut dire c'est derrière ça. Des forces vives, ça veut dire derrière en fait, des développeurs. Est-ce que ces développeurs ils sont en France ? Est-ce que, compte tenu de la pénurie, vous allez les chercher dans certains pays ?
Ouais, alors on a pas mal changé notre stratégie à ce niveau-là. On a beaucoup seniorisé notre équipe de développement. On a une vingtaine de développeurs. On continue à recruter
assez. Vingtaine de développeurs en France
là-dedans. Et justement, on a à peu près la moitié à l'étranger. Okay. Moitié à l'étranger, pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie guerre des talents.
Ouais,
nous, on est une belle boîte tech, mais il y en a beaucoup, des boîtes comme nous. Et finalement, pour aller chercher vraiment des stars du secteur, en tout cas, c'est dommage, surtout post-coronavirus, de se limiter à des frontières qui sont très fictives quand il s'agit
de... Vous faites que recruter à l'étranger ou vous...
On commence à opérer.
Donc le fait aussi d'aller peut-être chercher des candidats dans certains pays vous permet de mieux connaître le pays et donc d'opérer businessment le pays.
C'est quasiment du change management en jarro plutôt qu'une attaque commerciale, c'est-à-dire que ça nous fait bosser en anglais, il y a un vrai avantage, je veux dire, on est quand même, je crois qu'on est une douzaine de nationalités pour 60 collaborateurs.
La langue du job, c'est encore le français aujourd'hui chez Anjaro ?
Dans les bureaux parisiens, oui. À l'écrit, c'est devenu l'anglais
et
on a beaucoup de réunions en anglais maintenant, grâce à cette équipe de développeurs où on a pas mal d'étrangers.
Alors, les étrangers, est-ce que c'est dû au full remote ? Est-ce que c'est dû au modèle hybride ? C'est quoi chez Anjaro ?
On avait commencé un petit peu avant, mais c'est vrai que le full remote a clairement joué.
Ça a été quoi, déclenché par le Covid, en fait ?
Ça a été, non, juste avant.
Juste avant,
on avait commencé...
Toujours juste avant.
Guerre des talents, en fait. Guerre des talents. Moi, c'était une époque où... Ouais, juste avant, parce qu'on s'était... On s'était vraiment posé la question. On était en pleine levée de fonds. Nous, on lève notre série B, donc une levée de fonds de 13 millions d'euros, le 9 avril 2020. Donc, autant vous dire qu'on avait commencé bien avant. On s'était posé les questions de staff bien avant. Grosse guerre des talents sur le marché tech. On s'est dit, OK, comment est-ce qu'on recrute des gens très bons, très seniors, vu qu'on va avoir le budget, et comment on les trouve ? Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on arrête de se limiter au marché français. Comme on avait un recruteur à l'époque qui était basé à Londres, un cabinet de recrutement qui était basé à Londres, lui il s'est pas limité à ça en fait parce qu'il chassait des gens qui parlent anglais. Finalement, on a beaucoup fait Espagne, UK et la France. On recrute maintenant beaucoup en France de nouveau, mais il y a une période de 6 mois où on a quasiment pas recruté.
Est-ce que tu penses que c'est grâce à ça justement que tu recrutes en France parce que tu peux proposer des jobs à l'étranger ?
Aussi. Non, je pense que je recrute en France maintenant parce que j'ai des gens très bons qui donnent envie aux gens de bosser chez nous.
D'accord. Marque employeur.
Ouais, clairement. J'ai un feedback fantastique. Je continue, on est une boîte de soixantaine de personnes. Je continue à rencontrer tous les candidats en bout de process.
D'accord.
C'est un choix de ma part. Je pense que culturellement, c'est super important. Et donc, à chaque fois dans l'équipe tech, je suis super content, enfin R&D, ils me disent, moi, il y a deux personnes qui sont nos deux tech leads, Dan et Alexander. Ils m'ont appris des choses pendant le recrutement et donc j'ai envie de bosser avec ces gens-là. Okay. Et ça, c'est un plaisir.
Ouais, c'est top.
Quels sont les métiers sur lesquels tu recrutes aujourd'hui?
Ben, on investit vraiment beaucoup en R&D, justement.
R&D, c'est quoi, produit. C'est 70% en fait des recrutements?
À l'heure actuelle, c'est bien 70% des recrutements.
Okay. Ouais, d'accord. Et le reste, du commercial?
Commercial, c'est assez stable, finalement. Ouais. En ce moment, on a une belle performance, donc on va pas changer une équipe qui gagne.
Ouais.
C'est plutôt opération. On a une belle croissance, on a des très gros clients qui se lancent ou qui sont vraiment au stade de proof of concept. On a une vraie valeur ajoutée sur justement l'accompagnement de nos clients et donc on muscle constamment notre équipe opération au fur et à mesure que les clients rentrent. Donc là par exemple hier on a lancé un recrutement dans une équipe qu'on appelle Customer Engagement et qui accompagne vraiment les utilisateurs de la plateforme.
Et en termes de business model, c'est fixe en fait, qu'on soit, ou ça dépend du nombre de contrats, etc.
Non, le nombre de contrats surtout pas.
Ouais.
Si moi je suis, et d'ailleurs c'est pas que je suis convaincu, c'est que je suis certain que le nombre de contrats va biaiser l'utilisation de la plateforme.
C'est-à-dire
les managers qui vont utiliser la plateforme, si je les fais payer à chaque fois qu'ils trouvent quelqu'un en interne, ils vont bypasser la plateforme, ils ne vont pas aller au bout. Ce qui est dommage parce que par exemple en ce moment on est en train de digitaliser, d'automatiser la DPAE,
Comme la sur déclaration d'embauche.
Ouais. Exactement, nous pour les CDD c'est un truc qui est assez important. Bon ben, si le manager il va pas au bout, il va pas gagner ce service-là, et donc il va vouloir faire l'économie de quelques euros pour pas aller là, c'est dommage, ça va foutre le bordel dans le service RH, enfin ça n'a pas d'intérêt.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Donc nous on veut éviter ça, puis surtout, Anjaro, c'est une plateforme qui permet d'adapter son service RH. Nous on peut vraiment aider à une meilleure
stratégie RH. T'as des options à choisir quand t'es client, en fait, tu peux ne pas prendre tout le service Anjaro.
C'est plus que ça, c'est par exemple Anjaro, nous vraiment on va t'aider à avoir une vision instantanée de tout ton écosystème. Honnêtement, ça n'existe pas sur le marché et tous nos
c'est un tout en un en fait, mais qui comprend même de la paye.
Oui, alors non, on va juste avoir quelques petites fonctionnalités qui vont aider à de la contractualisation, mais on n'est pas du tout comme un PayFit.
Ça veut dire quoi? Est-ce que le client, il va brancher sa paye
Exactement, nous on va pouvoir faire le lien avec la paye pour dire, bah voilà, vous avez tel CDD qui a travaillé là deux jours la semaine dernière.
En flux, ça envoie les infos.
On envoie tout, ça évite les erreurs de paye.
Donc potentiellement, demain, tu peux te brancher ou organiser un branchement avec PayFit, quoi.
Par exemple, alors on a une typologie de client qui est souvent un petit peu différente.
En CrossFit,
ils sont plutôt, voilà, ils sont plutôt PME.
PME ouais.
Nous, on va plutôt au contraire aller vers des grands groupes, donc on est plutôt vers du ADP, du Sopra, en termes de partenariat, SAP. Mais dans l'idée, en tout cas,
dans l'idée, c'est ça. Oui, bien sûr. Bien comprendre la chaîne, ouais, d'accord.
Et en termes d'adaptation à son service RH, bah, nous, par exemple, on a des clients qui créent des équipes de volants. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des CDI dont le boulot, c'est de faire des remplacements. Mais c'est normal, vu qu'avec nous, ils sont sûrs et certains de les positionner.
Oui,
donc forcément, bien ils vont s'adapter. Si je les fais payer à chaque mouvement, ils vont me dire bah, pourquoi je vais créer une équipe de volants alors que non seulement je vais créer des CDI, mais en plus je vais payer en genre plus cher. Ça n'a pas de lien. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils maximisent l'utilisation de l'outil. Donc c'est un flat fee en fonction de la taille de l'organisation, en fait, tout simplement.
Comment tu vis aujourd'hui? Tu as parlé de la restauration. Comment tu vis aujourd'hui l'évolution de ce secteur qui est ultra tendu? Parce qu'on l'a rappelé dans les précédents épisodes de Patati et Patata, effectivement on l'a vu, dans la restauration aujourd'hui, comme partout, mais principalement dans la restauration, tu as des gens qui se sont posés des questions, qui ont finalement ouvert leur chakra en se disant « je ne veux plus faire ça pour telle et telle raison hein, » qu'on connaît à la restauration hôtellerie. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as cette capacité de pouvoir justement être encore plus à même de proposer un service quali à ces gens-là, à ces secteurs qui vont peiner?
Ouais, bah là justement, enfin, votre cœur de métier c'est le future of work, on peut en parler, moi je suis persuadé qu'il y a une opportunité énorme pour les RH, et typiquement la restauration ça doit être le cœur des essais sur la gestion des ressources humaines. La restauration, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, je vais généraliser, ça va pas être sympa pour certains, il y en a pour qui c'est pas vrai, mais c'est un métier comme qui avait des pratiques managériales inadmissibles, souvent, c'est un métier qui n'a pas attendu le Covid pour être pénurique, ça a accentué le truc, mais qui ne l'a pas attendu. Et pour moi, les RH ont un vrai enjeu d'organisation. Cette pénurie de talent, tu peux largement en faire un avantage concurrentiel. On a des clients, par exemple, qui, pour tacler cette pénurie de job, ont créé un poste de staffing manager. C'est-à-dire, par exemple, que leur objectif, comme ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir recruter autant de personnes que d'habitude, ils vont maximiser le peu de personnes qu'ils ont, pour un truc très bête. Il vaut mieux maximiser le temps, faire bosser 2 personnes 50% de leur temps, que de trouver 10 personnes que tu vas faire bosser 10% de leur temps. Ils ont créé un poste qui sert à ça, justement, qui sert à maximiser les gens qui sont
là. Donc des dépenses en plus.
Des dépenses en plus, bien au contraire, non. Non, non, au contraire.
Des dépenses en plus pour les réduire.
pour les réduire drastiquement. Ouais, quand tu dois recruter, l'effort de recrutement de 10 personnes, il est beaucoup plus cher et beaucoup plus important que l'effort pour recruter 2 personnes que tu vas choyer, animer, ouais, pour les faire bosser au maximum.
On parle de finance, mais on parle aussi de charge mentale, parce que quand tu dois recruter 10 personnes, ça veut dire potentiellement 10 problématiques. Évidemment. D'indisponibilité, de maladie, enfin de tout ce qu'on connaît.
Et ensuite, tu as les problèmes de rétention. Ouais. Je veux dire, ça, c'est une partie, on va dire, très opérationnelle, où il y a une vraie animation. Ça, c'est notre boulot chez Anjaro, de vivier à faire. Donc, OK, ça, c'est ma pub, mais il y a aussi l'aspect rétention des collaborateurs.
Est-ce que tu crois pas qu'un...
Tu commences par éviter les départs.
Ouais. Est-ce que tu crois pas qu'on est juste à la croisée des chemins et qu'à un moment donné, les entreprises doivent se mettre autour de la table et repenser, en fait, le package pour attirer leurs candidats? Est-ce que vous avez repensé votre package, vous, chez
Anjaro? Parce que c'est ce qu'il est demandé, là, dans la restauration, justement, une augmentation des salaires avec une baisse de charge.
Mais l'augmentation seule ne va pas suffire. Donc, du coup, est-ce qu'il ne faut pas revoir la façon de travailler en elle-même, c'est-à-dire les shifts, par exemple, les horaires décalés?
C'est un peu ce que tu évoquais à travers 10 personnes.
Évidemment, j'allais y venir sur la rétention, ouais. Exactement. Quand tu fais bosser des gens en coupure...
En usine, par exemple, il y a une vingtaine d'années, travailler en fait en 3-8 était devenu très compliqué. Bon, il a fallu juste des médecins du travail pour commencer à expliquer les choses. Mais là, on est juste dans la même logique. Les gens ne veulent plus en fait travailler de cette manière. Donc, est-ce que ce n'est pas aux entreprises de se mettre autour de la table et de dire, bon, bah ok, voilà ce que les candidats ne veulent plus, voilà ce que nous, on peut proposer, et puis commencer à créer un nouveau package.
Moi, je vais aller plus loin, je ne vais pas me faire que des copains, mais je le pense sincèrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises, faut qu'elles arrêtent de voir cette pénurie de talents comme une fatalité. Il y a un moment, ok, il n'y a pas assez de talent sur le marché, soit je me prends en main, comme tu le dis, on se met autour de la table, et peut-être pas entre entreprises, mais déjà... entre COMEX, en se disant qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour agir sur cette pénurie,
oui, c'est ça.
Qu'on commence exactement par revoir notre organisation du travail pour éviter des départs. Parce que moi, franchement, si j'avais 22 ans aujourd'hui et que je démarrais dans la restauration, en effet, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de me prendre des coupures, par exemple. Mm. Est-ce que j'aurais envie de travailler de nuit dans des usines?
Même si le métier te plaît. Hein.
Même si tu as la passion.
Exactement.
Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à peu près toutes les entreprises du secteur de l'hôtellerie et restauration parlent de passion. Donc c'est complètement antinomique avec la représentation du métier au quotidien, c'est ce que tu dis?
Complètement, moi je pense qu'il y a ce problème qui est déjà ce décalage entre la perception du métier et sa réalité, et je pense que ça vient aussi dans une transformation nécessaire des RH, qui est que les RH, il faut qu'entre guillemets, ils changent d'espace-temps. Un RH, moi j'en viens, j'étais professionnel RH avant de monter Anjaro. Évidemment, encore une fois, c'est un peu caricatural, mais n'empêche que c'est très tourné sur des temps longs. Vous n'avez qu'à regarder les processus de recrutement. Par exemple, prenons les processus de recrutement. C'est extrêmement long. On attend que le candidat postule, on fait passer 1, 2, 3 entretiens. Pour n'importe quel type de poste, il faut minimum 3-4 semaines. Mmh. Moi, par exemple, j'ai des courbes, je peux vous montrer que plus vous faites durer le process de recrutement, plus les candidats l'abandonnent. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, pénurie de talent, c'est comme en vente, hein, faut soigner son closing. C'est exactement la même chose avec des talents. Donc, pour moi, déjà, il y a un espace-temps qui doit être vu au niveau du recrutement, et puis aussi sur la façon dont je gère ma gestion des ressources humaines. Oui, la GPEC, c'est important. Oui, la gestion des carrières, c'est important. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, au quotidien, pour améliorer vraiment la vie de mon cuistot, de mon monteur en usine, de qui sais-je, au fond, de mon chauffeur de bus, pour que cette personne-là, elle reste, que cette personne-là, au quotidien, elle soit contente de venir bosser.
Donc pour toi, l'enjeu, en fait, allez, des 5-10 prochaines années, c'est la fidélisation?
Je vais le dire autrement, c'est l'exécution. C'est l'exécution des ressources humaines.
C'est la production.
C'est beau de faire des plans. Ouais. Maintenant, c'est comment est-ce que j'ai un impact au quotidien?
Tu ne crois pas que les RH, finalement, ils touchent à tous les sujets et qu'ils touchent à rien? Enfin, si on s'en parle de manière totalement transparente, est-ce que tu ne crois pas que un recruteur, on va dire, surtout dans des organisations peut-être un peu moyennes, ils vont se retrouver à faire l'attraction des talents, où ils vont pas avoir de budget souvent, donc ils vont devoir diffuser eux-mêmes en fait leurs annonces, savoir
on va en parler d'ailleurs, diffuser, comment recruter chez Anjaro,
comment optimiser sa performance, donc il doit déjà se poser des questions marketing alors qu'il n'est pas formé au marketing. Ouais. En plus de ça, il doit derrière en fait gérer en fait son recrutement. En plus de ça, il doit avoir un plan pour fidéliser en fait celui qui va arriver. En plus de ça, pendant tout le process et pendant tout le timing, il doit se dire bon bah il faut que je continue à avoir des contacts réguliers avec ces gens-là parce que sinon je vais pas soigner mon closing, donc c'est de la vente. Est-ce que tu crois pas qu'un RH aujourd'hui, il a tendance à avoir une logique où il va s'intéresser à l'ensemble des services?
Moi, je vais poser une question en retour, c'est comment on mesure le succès d'un RH? Et en fait, quand tu regardes tout ce que tu viens d'évoquer, normalement, ça sert à quoi? Ça sert en grosso modo à ce que les opérations fonctionnent mieux, qu'il y ait les bons effectifs au bon endroit, au bon moment, et que les gens opèrent donnent la prestation de service le mieux possible. Et typiquement, regarde, je reprends mon exemple tout à l'heure du recrutement. Est-ce que tu connais un seul DRH qui mesure le délai moyen de recrutement et surtout qui incentive ses recruteurs au délai moyen de recrutement? Franchement, moi, personnellement, j'ai fait un peu le test autour de moi. Ça doit exister, évidemment. J'en connais pas.
Ça doit exister, mais ouais.
Et pourtant, ben, si tu veux mesurer l'efficacité de ton process RH,
c'est ce point.
Ben, ouais. Par exemple, il y en a d'autres, mais tu parlais de marque employeur. Mais il y a bien un outil de mesure qui est, par exemple, quelle est la qualité ou je ne sais pas moi, quel est le taux de rétention des candidats sur les 6 premiers mois. Est-ce que tu as attiré les bons? Il y a un certain nombre de choses comme ça. Parce qu'en fait, pour moi, la fonction RH, encore une fois, elle est fantastique. J'adore, je suis passionné par ce métier. Accessoirement, il ne faut pas être caricaturaux, il y a des gens absolument extraordinaires avec qui on bosse ou on essaie de bosser au quotidien. Et je crois qu'elle a là besoin de changer ses métriques. Elle a vraiment besoin de retourner dans le temps présent. Encore une fois, on parle
donc
de pénurie des talents.
Donc la fonction RH est bien en retard.
Écoute, en tout cas, on parle de pénurie des talents, qu'on arrête d'essayer de recruter comme il y a 5 ans, par exemple.
Non, mais je crois que ça fonctionnait jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le Covid a montré que le fait...
Mais je sais pas si c'est que le Covid, en fait.
La société s'est instantanéisée. Regardez combien de temps il vous faut pour commander de la bouffe.
Ouais.
Il vous faut, je crois que le temps moyen, c'est une demi-heure.
Mais donc, ce process-là a augmenté. Et peut-être que déjà, on était sur du temps long, sur le parcours, on va dire, recruteur classique avant Covid. Et aujourd'hui, ça nous frappe. Aujourd'hui, en fait, on se dit...
Tu le trouves... Il n'est pas plus long, mais tu le trouves plus long parce qu'effectivement, et tu l'as dit, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, il y a une instantanéité qui est...
Les business,
qui est omniprésente.
Les business, ils sont pour la plupart, en tout cas ceux qu'on connaît, le retail, même la production.
Le e-commerce, tu vends quelque chose de l'autre côté, à l'autre bout du monde, et tu l'as le lendemain.
Et pourtant,
tu
en recrutement, il te faut un mois ou deux pour avoir une réponse, si tu as une réponse.
Alors que tu es manager opérationnel
quand
dans le e-commerce, il te faut quelqu'un demain.
Ouais,
il te faut quelqu'un demain. Donc comment est-ce
même
que
pour
moi,
le candidat,
je m'organise?
Et donc en gros, Anjaro, c'est le Uber Eats.
Mais non, alors c'est marrant ce que tu allais dire, parce que justement j'allais y venir littéralement à la prochaine phrase. Non, nous on est le Just Eat.
D'accord.
Parce que Just Eat, ils ont CDIsé. Et pour moi, tu peux tout à fait flexibiliser les opérations. C'est nécessaire. On ne va pas passer par un autre système. Dans la plupart des secteurs qu'on connaît, oui, on va devoir instantanéiser les opérations, on va devoir instantanéiser notre rapport aux ressources humaines. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Je veux dire, la société, vous comme moi, on va rentrer ce soir, il y a de bonnes chances pour que d'une manière ou d'une autre, on commande un truc qu'on veut dans les deux jours. C'est comme ça, ce n'était pas le cas avant. Donc maintenant, c'est un fait. Est-ce que pour ça, on doit changer notre modèle social? Non, et Just Eat l'a super bien prouvé. Just Eat, ils ont montré que tu peux CDIiser 5000 personnes, et grâce à une bonne technologie, et là moi j'en suis convaincu parce que c'est mon job justement avec Anjaro, tu peux tout à fait réussir à amener de l'instantanéité dans tes ressources humaines sans pour autant péter ton modèle social. En France, on a un modèle social qui convient tout à fait. Il faut arrêter de penser qu'on est trop rigide, il faut arrêter de penser que ça coûte trop cher.
Qu'on est trop chargé,
moins cher,
etc.
C'est bullshit.
Donc du coup, tu réponds à la problématique actuelle et au paradoxe actuel. Tu te rappelles de cette manifestation République, je ne sais plus, il y a quelques années, où les jeunes, quand je dis une génération de 18-23, avaient manifesté justement pour retrouver des CDI. Ces mêmes personnes qui étaient venues manifestation en Uber, qu'avaient commandé le soir avec...
Oui.
Donc on avait appelé ça le gros paradoxe de cette génération, quand bien même on peut quantifier ça pour une génération. Toi aujourd'hui, tu as une réponse avec un Just Eat qui dit on peut avoir tout de suite ce que l'on recherche sans pour autant péter un modèle social.
Complètement, et franchement, même pour l'entreprise. Déjà, ces jeunes, moi je trouve qu'ils ont raison. Désolé, mais quand ils auront
des gosses et qu'ils voudront
un pré-bancaire, ils auront bien besoin d'un CDI.
Mais ils consomment, je suis d'accord avec toi. Mais ce paradoxe est quand même frappant, c'est qu'ils sont consommateurs de ce système et pour autant le dénigrent.
Mais
le dénigrent à juste titre par rapport à une position sociale.
Je pense que sans le dire, sans bien le verbaliser, ils montrent exactement le paradoxe de notre société qui est de dire on flexibilise en précarisant. En France, 8 contrats sur 10, c'est des CDD de moins d'un mois. Un contrat sur deux, c'est un CDD de moins de 2 jours. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire que la société, elle s'est flexibilisée en 20 ans, grosso modo, depuis l'arrivée massive d'Internet. Et notre réponse jusqu'ici, ça a été de précariser les gens. Il y a beaucoup plus de CDD qu'il y en avait avant. L'intérim, ces 5 dernières années, a bondi de 40%. C'est absolument gigantesque. Et c'est un excellent service, l'intérim. Moi, je ne remets pas du tout ça en question. Ça répond bien à un besoin. Mais en gros, le paradoxe qu'ils donnent, c'est qu'ils disent bah, nous, la société, l'instantanéité en quelque sorte, on la veut, on vit comme ça. Par contre, on n'est pas d'accord avec le fait que ça amène plus de précarité. Et franchement, un, ils ont raison. Deux, si on ne veut pas prendre Anjaro, même si honnêtement, on prouve que ça marche, regardez Just Eat. Just Eat, ils sont tout à fait compétitifs sur un marché où tous les concurrents ont ubérisé, ont utilisé des contrats.
On peut avoir précaires. Un business model qui fonctionne sans évidemment. Précariser.
Évidemment.
Ça, c'est très important, c'est vrai. Quels sont justement, donc ça c'est quelque part une valeur. Hein,
ouais. Ah bah oui, ça prouve clairement en fait.
Ah bah c'est tous les gens qui bossent sur Anjaro ont ce truc dans le sang.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'Anjaro quand on vous rejoint aujourd'hui? Quelles sont les valeurs en fait qui attirent vos candidats aujourd'hui? Est-ce que quand tu mets une annonce, c'est difficile de recruter ou
Ouais, ça, honnêtement, ça reste difficile. Comme je le disais, des belles boîtes qui font des belles levées de fonds, nous, on a levé une vingtaine de millions d'euros.
Préfère aller où? Chez Conto, chez Payfit
Je sais pas si c'est une préférence, c'est juste qu'il y a. Parce que honnêtement, quand on a un taux de closing qui est pas dégueu, on va dire, quand on parle aux candidats, ils ont envie de nous rejoindre. Je pense qu'on a des beaux arguments. C'est juste qu'il y a chez nous aussi, il y a une pénurie de talents, alors avec des manières d'y répondre un petit peu différentes. Mais en fait, ce qui leur plaît, c'est notre vision sociale. Mmh. C'est exactement le discours que je viens de vous donner. On l'a tous dans le sang, encore une fois, ce truc-là.
On le sent, il y a un socle.
Ah ouais, ça c'est clair. Est-ce qu'on le sent aussi dans tes annonces emploi ou pas du tout? Parce que c'est la question qu'on se posait hier,
ouais.
En disant, bah, en gros, toutes les entreprises veulent véhiculer une certaine image, donc la marque employeur, mais ne la font jamais ou très rarement transpirer dans les annonces emploi.
Moi, je trouve pas assez, honnêtement. Pas assez.
Tu voudrais quoi? Tu voudrais, par exemple, que ce discours-là devienne une annonce?
Si t'avais compliqué. Un rêve. C'est qu'est-ce qui... tu veux transmettre un discours de vérité au candidat? Enfin, c'est vraiment un exercice compliqué. On a tous postulé, je pense que vous aussi, dans votre carrière, vous avez postulé, évidemment.
Toujours venu chercher, Jérémy.
Tu crois ce qu'il y a sur l'annonce? Franchement, moi je crois beaucoup plus ce qu'on me dit.
C'est pour ça que je parle de réécriture. Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment donné où il ne faut pas être juste plus transparent en fait, sur ce qu'on vend à un candidat?
Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est Coca Zero qui dit on affiche 4x3, il y a zéro sucre. Bon, tu vas dire c'est Coca qui me dit.
Voilà, exactement.
Et c'est le médecin de je ne sais pas quel hôpital qui dit il y a zéro sucre, effectivement, regardez, on l'a testé.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Mais ce qu'il faudrait, on ne peut pas non plus ne plus marquer. Et ne plus notifier ce que l'on vit, ce que l'on pense et ce qu'on souhaite mettre en avant dans une annonce sous prétexte qu'elle risque d'être prise pour de la publicité ou du...
Moi, je trouve qu'il y a plein de problèmes.
Il faut se donner de la liberté, bien sûr.
Il y a plein de problèmes avec, je dis jeune génération, j'ai 32 ans, c'est triste à mourir, mais il y a plein de problèmes avec la jeune génération, ou en tout cas, nous, on doit s'adapter. Il y a un truc magnifique avec cette génération, c'est qu'elle ne veut plus bosser pour rien. Elle veut bosser, elle veut avoir un vrai but au quotidien. Moi, je pense que notre boulot, en tant que recruteur, marque employeur chez Anjaro, c'est de leur transmettre un peu ce sens. Là, par exemple, on vient de refaire notre page Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, c'est un super outil, justement, pour amener le sens. En plus, tu parles. Et moi, je pense qu'un bon candidat, il a lu l'annonce, il est attiré par la mission, au sens du job qu'il va faire. Mais honnêtement, il est surtout intéressé derrière par la mission d'Anjaro. Parce qu'au fond, le job, il va pouvoir le répliquer peu ou prou dans une autre organisation. Il a deux critères, c'est un, est-ce que je vais le faire dans une organisation qui a du sens? Deux, est-ce que je vais le faire avec les meilleurs?
Je vais te poser une question difficile. Est-ce que du coup, si je suis ton raisonnement, peu de jeunes générations, si on la caricature comme ça, vont postuler pour des entreprises dont le sens est plus trop positif? Je vais reformuler, mais par exemple, dans des entreprises... comme Total, des entreprises qui polluent, j'en sais rien, je cible pas Total en particulier, ou dans l'automobile, ou dans le tabac, tu vois, on parlait American Tobacco il y a quelques mois.
Alors le tabac je le mets à part quand même, parce que c'est vrai que c'est une industrie qui est assez compliquée quand même, on va dire.
C'est très compliqué, ouais.
Mais moi, hier, j'ai pris un verre avec un type avec qui je bosse depuis 2 mois, et bref, la conversation a traîné. Et je disais, moi, typiquement, dans 10 ans, 15 ans, après Anjaro, moi, je crois que je rêve de bosser dans le service public. Parce que...
Toi qui lui dis ça, ou
ouais,
lui qui
moi.
Te dit ça, toi okay.
Parce que, alors que c'est des boîtes qui n'attiraient pas du tout il y a 5 ans.
Parce qu'il y a tout à fait.
Et qui ont fait leur mue. pas seulement, pour moi, c'est plus fort que ça. En fait, avec Anjaro, chez Anjaro, on bosse maintenant avec pas mal de groupes, ou en tout cas enfin, de groupes d'organisations, je ne peux pas donner tous les noms, mais des super belles ordias, publics. Moi, je me suis rendu compte que typiquement, le sens du service public, il devenait hyper fort chez moi, et moi je suis peut-être entre deux générations finalement dans toute cette quête-là. Et ces organisations-là, j'ai l'impression qu'elles ont fait leur mue. La Poste, ça a fait sa mue, et moi je trouve que le sens du service public de La Poste, il est super fort. On a une petite expérimentation avec eux, je pense que je peux le dire. On travaille avec des gens à tous les niveaux de cette organisation, c'est incroyable. Les gens sont passionnés.
Tu dirais que depuis les 5 dernières années, le service public s'est beaucoup amélioré.
Pourquoi tu le dis doucement?
Franchement, alors, je sais pas si je suis capable de le mesurer, mais ouais, je trouve qu'il y a une vraie progression, une vraie envie de s'améliorer.
Est-ce que c'est pas normal?
Est-ce que je trouve dingue?
Peut-être la digitalisation des process qui permet d'être en connexion avec ta génération.
Pas que. Alors là, moi, c'est une conviction super forte. Franchement. Va parler aux profs de tes gamins. C'est des gens qui sont tous ultra passionnés par leur boulot, qui attendent qu'une chose, c'est d'améliorer la façon dont ils travaillent. Tu vas à La Poste, tu vas partout dans l'organisation,
et les gens ont envie d'améliorer. Et ça a été possible, je reprends ton exemple de prof, ça a été possible via la digitalisation aujourd'hui. Tu retrouves le débrief des journées, tu retrouves les mots qu'il y avait dans le cahier de liaison, que tu retrouves aussi en ligne quand ton gamin a oublié de le noter, etc. Donc il y a aussi, et tu peux parler aux profs, tu as les groupes WhatsApp, enfin tu as énormément de choses.
En tout cas, mon point, c'est que ces orgas, elles ont profité peut-être de ces 5-10 dernières années, que ce soit au niveau RH, et vous avez raison, on va plus loin, on va sur toute la technologie, pour finalement s'améliorer, mais au sens vraiment collectif du terme. Quoi. Tout le monde a participé à ce truc, il y a eu des expérimentations un petit peu partout, ils ont testé des choses à droite à gauche, ça a marché, ça n'a pas marché. Ben, mon point, c'est que, pour revenir à la question initiale, les gamins d'aujourd'hui qui sortent d'école de commerce, moi je suis persuadé qu'ils vont retourner bosser dans des grands groupes, c'est juste que ces grands groupes, il va falloir qu'ils jouent ce jeu-là aussi. Il va falloir qu'ils jouent ce jeu de la réinvention, ce jeu peut-être de la prise de risque.
Alors, réinvention, c'est important ce que tu dis. Ça fait des années, et j'y ai travaillé dans ces secteurs, notamment dans l'automobile, où on parle d'environnement, etc. Est-ce que tu crois pas que c'est tout bullshit? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour se réinventer?
Il faut des leaders. Il faut des leaders qui vont plus mettre de bullshit derrière. Est-ce qu'il y a des gens en qui on croit? Est-ce que quand t'as 23, 25 ans, ton leader qui dit on va faire la révolution écologique de telle ou telle organisation, est-ce que je le crois et j'ai envie de l'aider à faire cette transformation?
C'est le discours de preuve aussi.
C'est le discours de preuve, c'est le discours de carrière, c'est aussi de temps en temps l'exemplarité. Je pense qu'on a une génération de leaders qui doit être plus exemplaire que jamais. Je pense que c'est toutes ces choses-là en fait qui vont faire qu'il y a des leaders. Moi, je vois des gens de mon âge ou plus jeunes, c'est hallucinant, qui sont des fans inconditionnels du leader de leur grande organisation, parce que c'est des gens charismatiques avec une vraie vision. Et honnêtement, moi, à mon échelle,
à ton sens, donc plus qu'avant. Donc on adhère plus à la société.
C'est sûr et certain.
On adhère plus à son entreprise aujourd'hui qu'on pouvait y adhérer il y a 20 ou 30 ans.
Si tu n'adhères pas, tu te casses.
Aujourd'hui, oui, bien sûr.
C'est sûr. Le candidat au pouvoir.
Dans ce contexte en fait de forte pénurie sur l'ensemble des marchés, que ce soit les commerciaux, les développeurs, etc., on a bien compris, vous avez des valeurs super fortes, super différentes, la bienveillance, la transparence, que des valeurs qui plaisent aujourd'hui à vos candidats. Ouais. On sent bien que c'est pas fait exprès, hein, c'est juste vous en fait. Vous êtes
comme je parle de la même manière avec les gens chez Anjaro, avec grand plaisir. La courbe de trésor, je leur donne quand ils veulent. Vendredi, j'ai rendez-vous avec Eva, qui est notre CSE, pour lui parler des résultats de l'entreprise. Enfin, voilà, ça m'est déjà arrivé.
Contexte.
La présentation du board.
C'est très intéressant, c'est très bien. Dans ce contexte, étant donné qu'il y a quand même des pénuries qui sont fortes, est-ce que beaucoup indiquent que les salariés auraient aujourd'hui, les collaborateurs, auraient mis le travail finalement au second plan? Et on a vécu toute une période où le travail était mis au premier plan, et puis maintenant, les salariés mettraient le travail vraiment au second plan.
Tu parles de quoi ? Vie pro, vie perso ?
Ouais, voilà, en fait, il y a un équilibre en fait, qui se créerait, qui se serait un petit peu décalé depuis le Covid. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, en interne ou pas ? Via notamment sur le télétravail. Est-ce que tu as des demandes fortes en interne ?
Ouais, j'en ai un peu. Enfin, forte, c'est un grand mot. Ouais, on a une réorganisation qui se met en place un petit peu avec le télétravail. Nous, on a choisi du 50-50, grosso modo. On leur a dit, vous faites un peu ce que vous voulez.
Ça, c'est intéressant. 50-50. Vous n'êtes pas full remote, parce que c'est rare pour des boîtes.
Non, à part au côté R&D, où là, on est full remote. Pour le reste, on est
Pourquoi R&D ? Parce que c'est pénurique ?
En fait, comme on a vraiment une grande partie de l'équipe à l'étranger, honnêtement...
Si tu avais le choix, en fait, tu aurais tout le monde sous le même toit.
Je sais pas, c'est tellement riche d'avoir une équipe internationale que c'est quand même rigolo. Non, parce que le choix, on l'a fait. Le choix, ça a été d'internationaliser cette équipe-là. Donc, non, j'ai pas de... finalement, tu vois, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. D'accord. C'est-à-dire que c'est venu comme ça, ça nous plaît comme ça.
Il y a des gens qui te demandent...
Voilà, en France, on demande du 50-50. Les gens qui sont basés en France, on leur dit, voilà, vous pouvez habiter où vous voulez, on vous demande un truc, c'est d'être là 50% de votre temps de travail. Et par contre, ça peut être une semaine, ça peut être deux semaines,
c'est
ça peut
que être j'allais te deux demander, jours et demi. Du coup, la fréquence, c'est quoi? C'est libre.
C'est libre, tant qu'ils préviennent le manager, qu'il y a un accord avec le manager et compagnie.
Mais qu'est-ce que tu mets ça en avant alors dans tes... Parce qu'on a compris, hein. T'es super basique en fait sur les valeurs, donc ouais. Transparence, bienveillance,
performance.
Enfin, non, mais passe, mais, ouais. Non mais je veux dire,
mais l'humain d'abord.
On sent qu'il n'y a rien de galvaudé derrière. Ouais, enfin, non, on ne va pas chercher de la valeur pour aller en chercher.
Non.
En revanche, donc, on a quand même pas mal de boîtes qui s'appuient hein, sur des choses du type le babyfoot.
Ouais.
Non mais qu'est-ce que
on
tu...
en a un, mais...
Non mais qu'est-ce que tu oui, penses mais... de tout ça? Je veux dire, t'as même des boîtes aujourd'hui qui mettent dans leurs annonces que il va y avoir un baby-foot, il va y avoir une cuisine, que ça va être super de se faire à manger ensemble, qu'on va avoir accès à une salle de sport, à des massages. Enfin,
pour moi, t'as trois piliers.
Ils attendent
piliers.
Quoi les candidats selon toi là?
T'as trois piliers. T'as un pilier social qui est, est-ce que la boîte pour laquelle je bosse, on en a parlé, elle vaut le coup. T'as un pilier performance économique de l'organisation qui est en gros est-ce que je suis en train de participer à une success story. T'as un troisième pilier derrière qui est moi dans cette vision sociale et success story, qu'est-ce que j'y gagne. Je dis aux candidats très souvent quand je les ai, j'attends des gens qui sont gentiment égoïstes. C'est-à-dire que je veux que tu nous rejoignes en me disant qu'est-ce que moi je vais y gagner à titre perso. Je vais y gagner de bosser avec les meilleurs. Je vais y gagner un accomplissement personnel parce que j'ai des valeurs qui correspondent à celles d'Anjaro. Je veux monter très rapidement parce qu'on est en hyper-croissance, donc je sais qu'il va y avoir des opportunités de progression beaucoup plus rapides que dans d'autres organisations. Ça, ça va dépendre vraiment du...
Le salaire est dans ton dernier point ou pas? Parce qu'on voit ça souvent joue, le salaire arriver en deuxième position de toutes les études.
Honnêtement, le marché des startups maintenant, il est archi compétitif. Moi, je suis désolé, mais je ne crois pas qu'il y ait une grosse différence entre les salaires des gens chez moi et les salaires de grandes organisations, comme la légende voulait le faire croire.
Il y a tellement d'argent. Même l'inverse maintenant.
Ouais, je crois aussi. Il y a une telle pénurie de talent qu'en fait, il y a. C'est un peu parti vers le haut.
Du moins que toi, à ton niveau, tu vois plus le retour sur investissement qu'un grand groupe qui dirait
je dois
monter ma grille de salaire et ça va nous coûter vraiment cher.
Le grand groupe se dit qu'il a une marque, il est appuyé sur la marque. Bon, là, il est en train.
Et puis, il multiplie par le nombre de personnes.
Moi, la grille des salaires.
Tu as 20 000 collaborateurs, tu dois multiplier cette augmentation par 20 000, c'est pas la même chose que lorsque tu la multiplies par 60, quoi.
Ben moi par exemple, exactement, il y a le jeu, tu vois, par exemple.
Tu fais pas le même chiffre non plus.
Ouais, mais tu vois, nous par exemple, il y a le gros débat
bénéfice de la même façon.
De est-ce que oui ou non je mets le salaire sur l'offre d'emploi. Moi personnellement, c'est peut-être une erreur, ça fait longtemps que je peux eu la conversation avec notre talent acquisition manager, mais franchement. Je suis plutôt contre le mettre. Pas parce que je veux cacher, bien au contraire.
Parce que c'est parce qu'ils viennent pour d'autres raisons.
Non, c'est même pas ça. C'est que
je
veux pas.
Selon profil.
Je veux pas me couper d'un profil surcapé que j'avais pas vu, qui va me démontrer qu'en fait, il va pouvoir faire plus. Et finalement, je vais payer 20 000 euros de plus. Mais le retour sur investissement.
T'avais pas prévu, mais finalement, en fait, ton retour sur investissement, il est plus important que celui que t'avais imaginé.
Sur une organisation comme
nous. Est-ce que tu crois à ça?
J'y crois, je l'ai vécu.
Est-ce que tu crois, je te dis n'importe quoi, qu'un senior va postuler à une offre dont l'écriteau fait penser quand même pas à du junior, mais à du basique?
Ouais.
Est-ce qu'il va prendre la peine d'y postuler en disant. Moi, je pense qu'il faudrait faire ça, ça, ça et ça. Enfin, c'est compliqué de refaire un travail d'annonce sur chaque entreprise pour laquelle tu voudrais postuler.
Je fais un gros travail de pédagogie avec l'équipe RH au sens large de Anjaro pour leur dire arrêtez de parler de tâches à accomplir sur vos annonces, parlez d'objectifs. Tu brasses beaucoup plus large et des talents beaucoup plus motivés quand tu ne les places pas dès ta première relation, c'est-à-dire dès la première lecture, comme des exécutants, mais que tu leur dis, voilà, moi, tu me rejoins parce que je vais améliorer tel KPI, tel truc et tel machin.
Donc, ça les place aussi dans ce que tu disais, dans un objectif.
Ouais. Ils ont l'ownership. On a cette expression...
Après, tu n'as pas une déception à l'arrivée.
Ça dépend de ton middle management. Hein.
Oui, mais tu ne fonctionnes pas à partage.
Moi, mon objectif, en tout cas, c'est que de plus en plus, alors des fois, on y arrive plus ou moins bien, évidemment, on est loin d'être parfait, mais mon objectif, c'est que les gens se soient, et j'allais y venir, cette expression complètement galvaudée,
il y a quand même de l'exécution de chez Anjaro.
Ouais,
il faut bien produire à un moment donné.
Mais tu peux avoir l'exécution de la relation client, mais prendre l'ownership de tel ou tel projet pour améliorer la situation, parce que par exemple, tu t'es rendu compte que 30% de tes coûts.
Évidemment, le macro est là, on se dit, je le fais dans tel but, etc.
Et voilà.
Mais derrière, tu as forcément des outils collaboratifs où les gens vont travailler entre eux pour ça, atteindre ce KPI.
Tout le monde peut le faire, et tout le monde le fait d'ailleurs. C'est un truc qui est super important pour moi, qu'on n'a pas toujours fait dans notre histoire. Et pour moi, c'est une belle connerie. Si on veut des gens heureux, il faut des gens qui sont en capacité d'améliorer leur propre job et celui de leurs voisins.
Je suis entièrement d'accord. J'ai un doute sur le salaire. D'une part, parce qu'on a reçu plusieurs médias emploi ici qui nous ont dit c'est x2 le nombre de candidatures que tu reçois sur ton offre d'emploi. Après, attends, on parle de la qualité après. Hein. C'est ce que tu venais nous expliquer, c'est totalement recevable. Mais tu reçois deux fois plus de candidatures lorsque tu mets le salaire et ou une fourchette que lorsque tu ne le mets pas. Mais ce que tu nous expliques, c'est que censément, tu peux avoir demain des profils qui ne correspondent pas à l'offre d'emploi, mais qui peuvent t'apporter beaucoup plus que ce que toi, tu recherchais, c'est ça.
Tu ouvres des chakras plus larges.
Ah, moi, j'ai vraiment des exemples où je pense que le package initial a augmenté de 15 000 balles en trouvant un candidat qui nous a mis une claque, quoi, en nous disant, mais en fait, on peut le faire comme ça.
Est-ce que ça t'arrive pas encore plus lorsque tu es une entreprise? Alors, attention, hein, je dis pas que ça, déjà, on n'est pas reconnu ou connu, mais lorsque tu es vraiment connu, je te dis, est-ce que... Pas seul Google peut se le permettre de dire je te mets pas le salaire, mais à toi de venir et de me montrer que tu en veux, etc.
Non, moi je crois pas, c'est l'histoire que tu leur vends. Moi, les gens, c'est des business développeurs vraiment au sens premier du terme qui viennent chez nous. Ils viennent parce qu'on est à un point d'inflexion dans l'histoire d'Anjaro, on vient de faire une série B, ils savent qu'on va vivre une aventure qui va être assez cool et qui a encore énormément à bâtir. Donc ces bâtisseurs, c'est des profils aussi particuliers. Ça peut pas être des... j'ai pas une armée d'exécutants, ça marche pas comme ça.
Ouais, c'est du challenge en fait.
C'est du challenge chez les gens qui ont envie de se faire doucement mal, mais dans vraiment le bon sens du terme, qui ont envie de se challenger au quotidien sur des trucs des fois où tu te dis mais comment ils peuvent être aussi passionnés par un truc aussi pénible, mais c'est juste qu'ils sont drivés par quelque chose de
super fort.
Quentin, merci.
Très intéressant.
Combien de recrutements en 2021? Combien de recrutements prévus en 2022 dans le contexte?
Les recrutements en 2021, on a dû en avoir, faudrait que je recompte, mais entre 25 et 30. Okay, je pense qu'on aura à peu près pareil, un petit peu plus l'année prochaine selon notre croissance.
Parce que combien, alors, 60 collaborateurs à date,
ouais.
Turnover, quoi, on approche les 10%.
Ah ouais, même plus honnêtement, parce qu'en plus on a eu un peu de renouvellement avec le Covid, on a
avec un socle aussi vrai.
On a un socle évidemment, on a fait une série B, une levée de fonds, ça génère souvent des organisations, des changements qui amènent des nouveaux talents et parfois aussi des gens qui se reconnaissent plus forcément dans ce que tu vas chercher l'entreprise, et c'est complètement ok. Donc je dirais qu'on a eu
l'entreprise va grossir et moi je voulais être dans une petite boîte, etc.
Des fois tu t'es peut-être un petit peu trompé en effet toi dans ton recrutement et le recruter dans son choix, parce qu'en effet il a rejoint une start-up plutôt pour rejoindre une PME, et une start-up ça recherche avant tout l'hypercroissance, soit honnête.
Ouais, bien sûr. Merci beaucoup Quentin, ce fut très intéressant.
Merci à bientôt. Merci à vous.
Travailleuses, travailleurs,
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job?
Patati et patata.